Guerre commerciale, une seconde vague d'inflation est-elle évitable? Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, bienvenue, c'est la nouvelle édition du Top Gun, c'est la question centrale du moment. Alors que la guerre commerciale alterne entre offensive commerciale et diplomatie commerciale, alors que ça tangue entre Jerome Powell et Donald Trump, alors que la Réserve fédérale est sous pression pour baisser ses taux d'intérêt, reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux sous pression de l'administration Trump, mais la Fed, elle, a un objectif d'inflation et justement les anticipations d'inflation, elles, selon certains indicateurs, sont revues en hausse. Par contre, les métriques actuelles de l'inflation vont toujours au sud. D'ailleurs, cette semaine, vous avez la mise à jour de l'inflation US. Selon l'indice d'inflation PCE favori de la Fed, il est attendu en baisse. Les indicateurs d'inflation temps réel sont globalement positifs, sauf peut-être dans certains compartiments industriels où ça reprend la direction du nord. Mais n'oubliez pas qu'un taux d'inflation a plusieurs composantes et que ce n'est pas parce que, par exemple, le prix des voitures repartirait en hausse que l'inflation globale va repartir en hausse, parce que ça ne représente pas grand-chose dans le cas. Ça a un certain poids, mais pas grand-chose. Donc, nous allons parler de tous ces sujets. La question centrale, guerre commerciale, peut-on éviter un rebond de l'inflation? Car je vous le dis tout de suite, une seconde vague inflationniste de type crise sanitaire, de type Covid, est complètement impossible. Je vous donne les parties. Alors, première partie, je vous rappellerai les raisons de base. Les raisons de base qui font que, selon moi, une seconde vague d'inflation est peu probable, voire improbable, voire quasiment impossible en lien avec cette guerre commerciale. Alors, d'une part, d'ailleurs, la guerre commerciale, elle n'est pas fixée, hein. Tout ce mois de mai va voir la diplomatie commerciale aller au bout du bout, l'objectif étant toujours d'atteindre un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Union européenne, les États-Unis et le Japon, les États-Unis et 50, 60, 70 pays. Bon, première partie, les raisons de base qui, selon moi, font qu'une seconde vague d'inflation est peu probable. Deuxième partie, ce mercredi 30 avril, vous avez justement la mise à jour de l'inflation US selon l'indice d'inflation PCE, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed. Tous les indicateurs avancés nous disent que cette inflation PCE va diminuer. Alors, elle est publiée le mercredi 30 avril, mais elle concerne le 30 mars. Alors, oui, naturellement, il y a toujours une opposition entre là. Parce que la désinflation était structurelle. Il n'y avait pas eu cette guerre commerciale, encore une fois. Il n'y avait pas cette guerre commerciale. Toutes les cibles d'inflation, la cible de 2%, elle était faite ce printemps. Vous allez voir que là, l'inflation PCE du mois de publiée ce 30 avril va être en baisse. Mais le marché craint la suite, craint les prochains mois. Est-ce que cette guerre commerciale va casser cette désinflation qui pourtant était structurelle? C'est ça qui est compliqué. Donc deuxième partie, je vais faire le point sur cette inflation PCE du 30 qui est attendue favorable. Troisième partie, vous savez, y a-t-il un risque de seconde vague d'inflation? Qui c'est qui fixe les prix? Bah monsieur tout le monde. Qui c'est qui fixe les prix à la consommation? Ce sont les entreprises, les distributeurs. Bon, ces entreprises, ces producteurs, ces distributeurs, ils ont deux choix. Ils sont soumis aux tarifs douaniers. Je parle des entreprises soumises aux tarifs douaniers, au commerce international. Ok, très bien. Partons de la base, le tarif universel de 10%. C'est ça, la guerre commerciale des tarifs douaniers dits réciproques. Il y a la base de 10%. Et puis, si un accord commercial n'est pas trouvé, il y a l'augmentation. Ça peut être 140% pour la Chine, ou 60%, 20% pour l'Union européenne. S'il y a des accords commerciaux, tout le monde va revenir à 10, et puis il y aura des désaccords pour que chaque bloc s'achète des produits réciproquement. Bon, ça c'est l'objectif de la diplomatie commerciale. Mais prenons l'exemple d'une entreprise européenne qui se prend de plein fouet ses droits de douane de 10% pour exporter aux États-Unis. Eh bien, localement aux États-Unis, cette entreprise peut prendre la décision d'augmenter ses prix de 10% pour faire en sorte que le tarif douanier est un impact neutre sur son bilan, son compte de résultat, sur ses états comptables. L'autre option, c'est que l'entreprise prenne pour elle ce droit de douane, diminue sa marge bénéficiaire pour ne pas changer les prix et ne pas impacter le consommateur. Car si tous les prix augmentent et que la consommation s'effondre, l'entreprise fera moins de chiffre d'affaires et au final, elle est perdante. Et elle aurait donc mieux fait d'absorber ça dans sa marge. Les entreprises US sont la clé. Ce sera la troisième partie de cette vidéo. Ont-elles les marges, ont-elles les reins suffisamment solides globalement pour prendre ça pour elles? En partant du, juste en raisonnant sur le 10%, le tarif douanier universel de 10%. Quatrième partie, je vous fais comme d'habitude, comme chaque semaine, mon suivi technique sur tous les horizons de temps, quantitatif, technique de l'indice S&P 500. C'est parti. Guerre commerciale, peut-on éviter une seconde vague d'inflation? C'est parti, en attaque. Le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction, chers amis, sous la forme orale. Je vous le mets ici sous la forme écrite, donc quatre parties. Première partie, guerre commerciale, les raisons de base qui, selon moi, font qu'une seconde vague d'inflation est peu probable. Alors, j'ai rassemblé ici un certain nombre d'arguments. Première raison, tout d'abord, il y a déjà eu donc une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine entre 2017 et 2019. Vous vous en souvenez, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis entre 2017 et 2019 avait abouti à l'époque à ici donc avait abouti à l'époque à un accord commercial dit de Phase One Trade Deal. Il était intervenu ici. Alors c'est vrai que cette guerre commerciale à l'époque avait été extrêmement volatile, mais ce qui était intéressant de noter, c'est que eh bien, il n'y avait pas eu de vague inflationniste, alors que pourtant, il y a vraiment eu ici, dans toute cette phase-là, des droits de douane qui ont été imposés aux deux parties, et puis, à la fin, les deux pays se sont mis d'accord pour s'acheter mutuellement un certain nombre de produits. Alors après, la crise sanitaire est arrivée, mais en tout cas, il n'y a pas eu l'or. Alors, ça n'a pas non plus baissé l'inflation, hein. Il n'y a pas eu d'envolée, si vous voulez. Ça, ici, c'est la vague inflationniste du Covid. Moi, lorsque, si vous voulez, je lis que la guerre commerciale peut créer une seconde vague d'inflation, je ne suis pas d'accord. Au pire, la guerre commerciale pourrait maintenir l'inflation au-dessus de la cible de la Fed, autour des 2,5-3%, vraiment dans le pire des cas, mais créer une vague d'inflation de type Covid, qui a été déclenchée pour des raisons complètement structurelles, la mise à l'arrêt de l'économie, un redémarrage où l'outil de production n'a pas pu faire face, c'est très différent. En tout cas, première raison de base, nous avons un précédent, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis lors du premier mandat de Donald Trump n'avait pas déclenché de seconde vague d'inflation. Deuxième raison de base, dites-vous bien une chose, c'est que la guerre commerciale concerne directement les produits agricoles, directement les produits industriels, mais les services ne sont pas concernés directement. Or, je vous rappelle que les services représentent 70% du calcul de l'inflation, et d'autre part, les États-Unis sont une économie de services, les services représentent 80% du PIB des États-Unis. D'autre part, sachez aussi que le commerce international ne représente que 11% du PIB des États-Unis. Donc, ce sont les métriques qui montrent qu'effectivement, la guerre commerciale, si elle devait aboutir à une guerre à outrance sans accords commerciaux, ça reste la clé, c'est ce que je répète chaque semaine dans le Top Gun, bien, quand bien même le poids du commerce international dans l'économie américaine, le poids des importations manufacturières et agricoles n'est pas suffisante pour créer une vague inflationniste de type Covid. Dans la vague inflationniste de type Covid, l'inflation s'est envolée parce que l'inflation des services s'est envolée en grande partie. Or là, les services ne sont pas concernés directement par la guerre commerciale. Raison numéro 3 pour laquelle, pour moi, une seconde vague d'inflation est peu probable. Alors, vous entendez effectivement parler du risque inflationniste, notamment sur le prix des voitures, très bien, mais en contrepartie, vous avez eu un impact massif baissier sur le prix du pétrole, je remontre ça, le prix du pétrole qui est sorti en plus par le bas d'un range pluriannuel, alors peut-être qu'il le réintégrera Peut-être qu'il le réintégrera. Ok, très bien, mais peu importe. Le delta du prix du pétrole, là, en mars-avril 2025, par rapport à ce qu'il était en mars-avril 2024, est largement négatif. Et je voulais vous rappeler la part, le poids. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableau intéressant qui vous montre à la fois le poids direct et le poids indirect du prix du pétrole dans le calcul des taux d'inflation. On est autour, au total, de 9 à 10%. Le poids direct et indirect du prix du pétrole dans l'inflation est autour de 10%. C'est largement supérieur à ce que représente le poids, par exemple, de l'inflation des nouvelles voitures. Et clairement, l'énergie est en déflation. Les taux d'inflation sont négatifs actuellement. Les taux d'inflation sont négatifs. Prenez Trueflation. Vous allez dans la catégorie transport et vous regardez, vous vous concentrez sur l'inflation de l'énergie. Et actuellement, le taux d'inflation sur le gasoil, l'essence, etc., c'est, attendez, j'enlève la petite vidéo, c'est moins 16%. Oui, actuellement, le taux d'inflation annuel de l'énergie, c'est moins 16. Alors, moins 16, est-ce que moins 16, c'est une seconde vague d'inflation? Ah mais, pose la question. Peut-être que pour certains, moins 16, c'est positif. Oui. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que, imaginons, effectivement, regardez, on commence à observer un petit rebond de l'inflation des nouveaux véhicules. Mais c'est contrebalancé par l'effondrement de l'inflation énergétique. Ralentissement économique mondial, en plus augmentation de la production de l'OPEP, la production américaine, bon bref, au final, ces choses vont s'équilibrer. Donc, ça, c'est pour vraiment, je me concentre sur l'aspect des produits qui sont concernés par cette guerre commerciale, et notamment les produits industriels, les produits manufacturés, qui vont être importés avec des droits de douane de 10%, mais si en parallèle vous avez une chute du prix de l'énergie, ça viendra s'équilibrer. Quatrième raison de base, l'immobilier n'est absolument pas concerné directement par la guerre commerciale, et l'immobilier représente 40% du calcul du CPI et 15 à 20% du calcul du PCE. Vous avez donc déjà ici une catégorie qui pèse énormément les indices d'inflation. D'ailleurs, je vais vous remontrer où en est l'inflation immobilière en temps réel. Le taux d'inflation des nouveaux loyers est à moins 2,18. Donc, je récapitule. Actuellement, le taux d'inflation de l'énergie est à moins 15. Le taux d'inflation des nouveaux loyers immobiliers est à moins 2. Donc, l'immobilier, c'est 30% de l'inflation. L'énergie, c'est 10%. Vous avez donc actuellement 40% du calcul de l'inflation qui est en effondrement, en déflation. Alors, où est la seconde vague d'inflation? Si vous avez 40% des composantes en déflation. Et en plus, ils ne sont pas concernés par la guerre commerciale. En tout cas, s'il devait y avoir une inflation dans une certaine catégorie de produits à la consommation, ce serait équilibré par la baisse du prix des loyers immobiliers, par la baisse du prix du pétrole, et donc au final, l'inflation serait flat, elle serait stable. C'est ça, en fait, le raisonnement que j'essaie de vous expliquer. Donc déjà ici, ce sont mes quatre raisons de base pour lesquelles je ne crois pas donc, à une seconde vague d'inflation. Alors ensuite, un élément très important, vous avez sous les yeux donc le détail, la composition donc de l'inflation selon le CPI et de l'inflation ici selon le PCE. Une chose, une donnée doit vous sauter aux yeux. C'est cette ligne. Les services. Dans le slide précédent, je vous ai montré ici la vague inflationniste du Covid. Cette vague inflationniste du Covid, globalement, toutes les composantes ont participé à l'envolée de l'inflation, mais c'était surtout l'explosion haussière de l'inflation des services. Or, là, dans la guerre commerciale, les services ne sont pas concernés, et les services représentent 60 à 67% du calcul des taux d'inflation. 60 à 67% du calcul des taux d'inflation. Et les services ne sont pas concernés directement par la guerre commerciale. Donc nous avons déjà vu là quand même un certain nombre d'arguments qui militent contre la seconde vague d'inflation. Alors ça ne veut pas dire que l'inflation va aller à la cible de la Fed. Ça ne veut pas dire que certaines composantes ne vont pas augmenter. Je prenais l'exemple, par exemple, récemment de Hermès, qui a indiqué que pour faire face aux droits de douane de 10%, Hermès a annoncé qu'elle augmentait ses prix aux États-Unis de 10%. Bon, bah, là, il y aura plus 10. Mais bon, concrètement, c'est quoi le poids des produits d'Hermès dans le calcul du CPI et du PCE? C'est que dalle, c'est rien. Bon, mais bien sûr que ça va contribuer. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision équilibrée. Je ne peux plus lire, moi, tous ces articles qui écrivent « Seconde vague d'inflation comme le Covid arrive ». Et puis, et à l'intérieur, c'est creux. Il n'y a aucune explication, aucun détail, aucune composante. Voilà, bon, j'essaie d'apporter un peu de nuance. J'essaie d'apporter un peu de nuance. Alors, cette semaine, justement, bah écoutez, on va déjà avancer un peu, puisque ce mercredi 30 avril, vous avez la mise à jour de l'inflation US selon le PCE. Le PCE, donc, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed, et pour lesquels, actuellement, tous les indicateurs avancés permettent d'être optimistes. Donc ce que nous allons faire déjà avant de regarder les indicateurs avancés, c'est faire un état des lieux de la situation actuelle du PCE. Vous avez sous les yeux donc l'indice d'inflation favori de la Fed. J'enlève la version médiane. La Fed regarde la version nominale en verte. Le taux d'inflation nominale est actuellement à 2,5%. Et la Fed regarde l'inflation sous-jacente. L'inflation sous-jacente est actuellement à 2,8%. L'objectif, bien sûr, de la Fed est de ramener ça à 2%, de retrouver le monde d'avant. Alors, dans les toutes dernières prévisions de la Fed s'était montrée pessimiste, pensant que le PCE nominal ne passerait pas sous 2,7 et pensant que le PCE sous-jacent ne passerait pas sous 2,8. Bon, alors, sachant que on est déjà sous 2,7 pour le nominal, on est à 2,8 pour le sous-jacent. Cette semaine, mercredi 30 avril, vous avez la mise à jour du PCE. Tous les indicateurs avancés sont optimistes. Les indicateurs avancés que je vais regarder, je les ai répertoriés ici dans ce tableau, avec notamment donc Trueflation qui s'effondre. Et clairement, Trueflation nous dit que la cible de la Fed est faite. Bon, mais ça, c'est l'inflation en temps réel. L'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland est très optimiste. Je vous ai montré les métriques de l'inflation immobilière très optimistes, avec le taux d'inflation des nouveaux loyers qui est même négatif. Bon, par contre, sur les anticipations d'inflation des entreprises, notamment dans le secteur manufacturier, c'est plutôt une alerte rouge. Mais encore une fois, l'industrie ne représente que 20% du PIB des États-Unis et que 30% du calcul de l'inflation. Mais effectivement, il faut être prudent, notamment pour le rebond de l'inflation des nouvelles voitures. Et oui, ça va peser, je l'admets. Et par contre, au niveau des produits énergétiques et agricoles, pour l'instant, c'est plutôt des pressions baissières. Je vous l'ai montré notamment sur le prix de l'énergie. Donc j'illustre un certain nombre de ces indicateurs avancés. Alors tout d'abord, vous avez bien sûr le Trueflation. Donc overall, l'inflation temps réel est à 1,40. L'inflation des services n'arrête pas de baisser, elle est à 1,94. Donc là, vous avez sous les yeux l'inflation nominale et l'inflation des services en temps réel. Il n'y a, au stade actuel, aucune seconde vague d'inflation. Et pourtant, les tarifs douaniers de 10% sont implémentés. Alors ça peut prendre du temps, mais il y a déjà du 10%. Il y a déjà du 10% implémenté. L'objectif des accords commerciaux, c'est de rester qu'à 10 et de ne pas passer à 20 contre l'Union européenne ou 60 ou 100 ou 140, que sais-je, encore avec la Chine. Lorsqu'on regarde en détail dans les composantes, alors l'inflation de l'énergie s'effondre. Par contre, effectivement, l'inflation des nouvelles voitures, qui est ici en vert, commence à rebondir. Là, il faut faire attention à ça. L'inflation des nouveaux véhicules, c'est un poids important dans le CPI, bon, mais ce n'est pas non plus un poids dominant, mais effectivement, il y a un début d'impact. Les services publics, c'est tout en bas. La santé, je vous rappelle que la santé pèse 20% du calcul du PCE. Le PCE étant l'indice favori de la Fed. La santé, elle, et tout en bas, en fait, un certain nombre de composantes de l'inflation sont encore tout en bas, sur des niveaux très bas. Et donc, overall, Lorsque vous regardez l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, donc comme je vous ai montré là, le PCE nominal est à 2,5, le PCE sous-jacent est à 2,8. L'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland pour ce chiffre du mercredi 30 avril qui concerne le mois de mars, le chiffre du mercredi 30 avril concerne le mois de mars, le PCE devrait tomber à 2,19 et puis à 2,12 en avril. Donc là, il est à 2,5. Donc passer de 2,5 à 2,19 et passer de 2,19 à 2,12, où se trouve la seconde vague d'inflation? Me direz-vous, oui, mais c'est trop tôt, ça va arriver plus tard. Peut-être, peut-être. Sauf si d'ici 90 jours, des accords commerciaux sont trouvés. Et on en revient toujours au même point, l'importance d'arriver à établir ces accords commerciaux entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux. Mais vraiment, sur l'inflation nominale, il va y avoir un impact très baissier du prix du pétrole et du prix de l'énergie en général, avec donc un prix du pétrole qui était sorti par le bas ici de ce trading range. Alors, la véritable question, la question qui est centrale, pour éviter une seconde vague d'inflation, en fait, ce sont les entreprises américaines qui ont la main. La question que je me suis posée est toute simple. La question que je me suis posée est la suivante. La question que je me suis posée est la suivante. Les entreprises, certaines vont être soumises à des droits de douane. La question est de savoir, ont-elles la capacité, vont-elles augmenter leurs prix? Et dans ces cas-là, prendre le risque que les consommateurs n'achètent plus? Et donc, au final, baisser leur chiffre d'affaires? Ou vont-elles accepter de réduire leur marge bénéficiaire pour préserver le consommateur et maintenir le chiffre d'affaires? La bonne nouvelle, c'est que les entreprises ont largement de quoi. Prenez ici les entreprises américaines, avec les marges qui sont représentées ici par la courbe en rouge, les marges donc après impôt, eh bien la tendance est largement haussière, et cette augmentation des marges permet clairement aux entreprises d'absorber les droits de douane pour éviter de pénaliser le consommateur. Un autre graphique intéressant qui nous vient de FactSet, qui est l'évolution de la croissance des bénéfices attendus pour 2025 de la part des entreprises. Vous avez ici les Magnificent Seven et là le S&P 493. Eh bien regardez, le S&P 493 va se sortir de mieux en mieux. Et donc cette croissance des bénéfices anticipés peut permettre d'absorber les droits de douane pour ne pas pénaliser le consommateur. En fait, tout l'enjeu est ici. Est-ce que les entreprises ont accepté de diminuer un peu leur marge pour ne pas pénaliser le consommateur et donc pour ne pas relancer l'inflation, ou vont-elles vouloir préserver leur marge en augmentant leur prix et donc il y a un rebond des taux d'inflation, mais si la consommation s'effondre, qu'elles font moins de chiffre d'affaires, au final elles feront moins de marge. Donc elles vont devoir faire ce choix. Au final, elles feront moins de marge. Et elles vont devoir vraiment faire ce choix. Au final, elles feront moins de marge et elles devront vraiment faire ce choix. Donc c'est vraiment ça qui va compter et dans la suite des événements. Alors ensuite, comme d'habitude, je passe donc par le tour d'horizon, analyse technique de l'indice S&P 500 qui fait de son mieux pour défendre son support. L'indice S&P 500, écoutez, les choses n'ont pas changé. La clôture mensuelle, nous allons l'avoir cette semaine, un peu trop tôt pour l'interpréter. En données hebdomadaires, le principal est de défendre cette zone support, de défendre cette ligne de tendance, de défendre ce niveau horizontal, les 4800 points. Tant que le marché défend cette zone, eh bien, on peut considérer que le bottom a été fait. Et j'aime toujours beaucoup la structure ici que propose l'indicateur technique RSI. D'un point de vue quantitatif, eh bien, c'est ce dont je vous parlais la semaine dernière, et ça c'est très prometteur, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours est ressorti par le haut ici de cette zone basse, qui fut à chaque fois donc les points bas, le point bas de la baisse d'octobre 2023, le point bas du bear market de 2022, le point bas ici de la crise sanitaire. C'est très positif de voir ce pourcentage ressortir par le haut de la zone de survente. À chaque fois, ça a permis des accélérations. Et ça va vraiment dans le sens Donc même si les séances restent volatiles, même s'il y a encore beaucoup de volatilité dans cette zone entre les 4008 et les 5004, in fine, petit à petit, le marché sera en mesure de revenir tester, je pense, sa moyenne mobile à 200 jours. Ici, mais tout ça va prendre du temps au gré de l'actualité. D'un point de vue du sentiment du marché, il y a toujours beaucoup de pessimisme du côté des investisseurs particuliers. On est très loin de l'euphorie. On peut en avoir une approche contrarienne. Et donc ça permet d'envisager que le marché, dans une volatilité encore importante, parvienne à se reprendre. Et puis, vous avez aussi quelque chose d'intéressant sur le VIX. Vous voyez que le VIX, ici avec son RSI, à chaque fois que le RSI du VIX est ressorti par le bas de la zone de surachat, eh bien c'est que le pic de la peur avait été atteint. Donc vraiment, moi quand même, j'ai beaucoup d'indicateurs où tout me laisse penser qu'un point bas majeur a été établi sur l'indice S&P 500 au-dessus de cette zone. Peut-être que ça fera un double bottom avant de repartir. En tout cas, c'est la zone au-dessus duquel on peut considérer que cette tendance haussière de fond qui a été initiée depuis le point bas de la crise sanitaire et qui rejoint ici le point bas du bear market de 2022 puisse se prolonger. Voilà, chers amis, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle édition du Top Gun vous a plu. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté.